Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Aujourd'hui, nous arrivons à la fin de notre très importante série concernant l'importance du Saint-Esprit. C'est l'étude numéro 12 et nous pourrions donner comme titre « La charrue avant les miracles ». Chers amis, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il répande pour vous la justice, nous est-il dit dans Osée au chapitre 10, verset 12. Nous avons ici deux sortes de terres, une terre inculte et une terre labourée par la charrue. Il existe donc, comme je viens de le dire, deux sortes de vie. La vie en friche et la vie labourée. Nous n'avons pas besoin d'aller bien loin pour trouver des exemples de la vie en friche. Il y en a beaucoup trop parmi nous. L'homme, dans la vie étant jachère, est satisfait de lui-même et des fruits qu'il a un jour produits. Il ne veut pas être bousculé, surtout pas. Il sourit dans une attitude de supériorité tolérante à tout ce qui s'appelle réveil, jeûne, recherche personnelle et dur labeur précédant la récolte, ainsi que fébrilité qui accompagne le progrès. Voyez-vous, l'esprit d'aventure est donc mort en lui. Il est bien entendu très pondéré, toujours à sa place habituelle, comme le vieux champ en friche, modéré, et en quelque sorte il fait figure dans la petite église, pourquoi pas. Mais il ne porte pas de fruits. Le malheur avec une telle vie, c'est qu'elle est figée tant dans sa forme et dans son contenu. Le verbe « être » a pris la place du verbe « devenir ». La pire chose que l'on puisse dire d'un tel homme, c'est qu'il est ce qu'il sera. Il s'est entouré d'une clôture et par ce geste, il s'est privé de la puissance de Dieu et du miracle de la moisson. Or, la vie labourée est celle qui, dans un acte de repentance, a fait tomber la clôture protectrice et a mis la charrue de la confession dans son âme. L'influence de l'esprit, la contrainte des circonstances et la détresse d'une vie stagnante ont parfaitement joint leurs efforts pour humilier le cœur. Une telle vie a mis à l'écart toute défense et a renoncé à la sécurité d'une vie stérile, et ceci pour accepter les risques d'une vie fructueuse. L'insatisfaction d'une vie inutile, une aspiration profonde, le repentir, l'obéissance, et je parle de l'obéissance courageuse à la volonté de Dieu, toutes ces choses ont meurtri et brisé la terre jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau prête à recevoir la semence. Bien sûr, comme toujours, le fruit a succédé à la charrue. La vie et la croissance commence quand Dieu fait pleuvoir sa justice. Un tel homme pourra enfin témoigner. Et la main du Seigneur était sur moi en ce jour-là. Et oui, l'histoire religieuse fait état de deux périodes qui correspondent à ces deux genres de vie, la période dynamique et la période statique. Les périodes dynamiques sont celles qui ont vu les enfants de Dieu se stimuler mutuellement pour obéir au commandement de Dieu et pour sortir sans crainte, pour proclamer au monde le témoignage de son merveilleux nom. Ils ont échangé la sécurité de l'inaction contre les risques de l'avancement qui leur était inspiré par Dieu. De telles actions étaient immanquablement suivies de la puissance de Dieu. Et oui, en effet, le miracle de Dieu se manifestait quand est là où le peuple de Dieu se manifestait, et il s'arrêtait chaque fois que son peuple s'arrêtait. Donc les périodes statiques sont bel et bien celles où le peuple de Dieu s'est lassé du combat et a cherché une vie de paix et de sécurité. Pendant ces périodes, ils se sont évertués à conserver les gains qu'ils avaient acquis au cours des périodes plus audacieuses, quand la puissance de Dieu marchait au milieu d'eux. L'histoire biblique abonde en exemples à ce sujet-là. Quand notre cher Abraham est sorti pour sa grande aventure de la foi, Dieu est sorti avec lui, et oui, mentionnant quels en ont été les résultats, des révélations de la part de Dieu, des apparitions ont eu lieu, le don de la Palestine, des alliances et des promesses de riches bénédictions à venir. Ensuite, Israël est descendu en Égypte et les miracles ont cessé pendant 400 ans. C'est affreux. Au bout de ce laps de temps, voilà que Moïse, a entendu l'appel de Dieu et il s'est levé pour mettre au défi l'oppresseur. Une explosion de puissance a accompagné ce défi et le peuple d'Israël n'a pas tardé à se mettre en marche. Aussi longtemps que le peuple d'Israël osait poursuivre sa marche, eh bien Dieu envoyait ses miracles pour ouvrir la voie devant eux. Mais chaque fois que le peuple tombait dans l'inertie comme un champ en friche, Dieu détournait ses bénédictions et attendait de voir son peuple se lever de nouveau pour lui accorder sa puissance. Nous avons ici une brève mais juste esquisse de l'histoire d'Israël, tout comme de l'Église. Car aussi longtemps qu'ils sont allés de l'avant, et qu'ils ont prêché partout, le Seigneur travaillait avec eux. Il confirmait la parole par des signes. Cependant, lorsqu'ils se cloîtraient en quelque sorte, se cloîtraient dans des monastères, c'est vrai, ou quand ils jouaient à construire de très belles cathédrales avec des vitraux fabuleuses, eh bien Dieu leur a retiré son aide. Et cela jusqu'à ce qu'un fameux Martin Luther ou un Wesley se lève pour défier l'enfer une fois de plus. Alors là, Dieu déversait invariablement sur eux sa puissance comme auparavant. Voyez-vous, cette loi, elle s'applique dans chaque dénomination, dans chaque société missionnaire, dans chaque église locale ou chez chaque chrétien. Dieu agit aussi longtemps que son peuple vit audacieusement. Mais Dieu cesse d'agir quand son peuple n'a plus besoin de son aide. Dès que nous cherchons ailleurs que en Dieu la protection dont nous avons besoin, nous la trouvons, oui, mais pour notre propre ruine. Que nous ayons le malheur de nous entourer d'un mur de talents, de capacités, de règlements, de prestiges fabuleux, et d'une multitude de méthodes pour déléguer nos tâches, et vous pouvez être sûr et certain qu'aussitôt une paralysie commencera à s'installer progressivement, oui, une paralysie qui ne peut aboutir que à la mort. N'importe quel homme qui observe à l'occasion la scène religieuse aujourd'hui sera frappé par deux choses. Premièrement, qu'on rencontre très peu le sens du péché parmi les inconvertis. Et deuxièmement, que le chrétien moyen vit une vie si mondaine et totalement insouciante qu'il est très difficile de faire la distinction entre lui et l'inconverti. La puissance qui apporte la conviction au pécheur et rend le chrétien capable de surmonter la tentation dans sa vie de tous les jours, elle est entravée quelque part en cours de route. Il faudrait donc avoir un esprit simpliste pour ne considérer qu'une seule chose comme étant la cause de cette situation, car plusieurs éléments nous empêchent totalement de réaliser pleinement nos privilèges néo-testamentaires. Il existe cependant une catégorie d'obstacles qui ressort si manifestement que nous ne courons aucun danger en lui attribuant une très grande part de nos problèmes. Je veux parler ici des fausses doctrines et de l'importance exagérée que l'on accorde à de bonnes doctrines. Voyez-vous, je désire signaler quelques-unes de ces doctrines et le faire en espérant très sincèrement que cela ne suscitera aucune controverse, mais que cela nous amènera à faire un examen respectueux de la position dans laquelle nous nous trouvons. Voyez-vous, de nos jours, le christianisme fondamentaliste est profondément influencé par cet ancien ennemi de la doctrine qui a pour nom antinomie. Le credo de l'adepte de l'antinomie est très simple. Il dit « Nous sommes sauvés par la foi seule. Les œuvres n'ont donc pas leur place dans le salut. Notre façon de nous conduire constitue des œuvres et pour cette raison n'a donc aucune importance. Ce que nous faisons n'a absolument pas d'importance, aussi longtemps que nous croyons de manière correcte. Le divorce entre la foi et la conduite est absolument et sans appel. Voyez-vous le problème du péché? Il est au fond, et nous serons tous d'accord, il est réglé par la croix de Jésus. La conduite, elle se trouve en dehors du cercle de la foi et ne peut s'interposer entre le croyant et Dieu. C'est là, en peu de mots, ce que enseigne l'antinomie. Et cet enseignement a tellement pénétré l'élément fondamentaliste au sein du christianisme moderne qu'il est accepté par les masses religieuses comme étant la pure vérité de Dieu. L'antinomie, c'est la doctrine de la grâce. La doctrine de la grâce qui est poussée jusqu'à l'absurde par une logique non corrigée. Cette doctrine prétend, ou prend plutôt, l'enseignement de la justification par la foi et la déforme en la tordant. Elle a même tourmenté l'apôtre Paul dans l'Église primitive et a provoqué certaines de ses dénonciations les plus pittoresques. Quand la question est posée, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce puisse abonder? L'apôtre Paul répond non, 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 avec cet argument puissant que nous trouvons dans le sixième chapitre de son épître aux Romains. Voyez-vous, ceux qui de nos jours se font les défenseurs de l'antinomie méritent notre respect pour au moins une chose. Leurs intentions est pas si mauvaise que cela, mais l'erreur qu'ils commettent, elle provient de leur désir d'exalter la grâce et la liberté de l'Évangile. Ils partent du bon pied, d'accord, mais ils se permettent d'aller au-delà de ce qui est écrit en adhérant de façon servile à une logique indisciplinée. Voyez-vous, il est toujours dangereux d'isoler une vérité et de la pousser à ses limites, sans égard pour les autres vérités. Les Saintes Écritures ne nous enseignent pas que la grâce nous rend libres de péché, mais elle nous rend plutôt libres de faire le bien. Il y a donc un abîme immense entre ces deux conceptions de la grâce. Il serait bon de formuler que, quelle que soit la chose qui rend le péché acceptable, eh bien cette chose est ennemie de Dieu et des âmes. Tout de suite après la Première Guerre mondiale, on a vu éclater une épidémie d'évangélisation populaire mettant l'accent sur ce qu'on appelle alors l'évangile positif. Les mots d'ordre étaient de croire, programme et vision. Je répète, le mot d'ordre était croire, programme et vision. Donc le point de vue présenté était entièrement objectif. Les hommes fulminaient contre tout, absolument tout ce qui était devoir, le devoir, tout ce qui était un commandement, et ce qu'ils qualifiaient avec mépris de décalogue des interdits. Alors il parlait d'un grand et charmant Jésus aux cheveux ondulés, bouclés, dorés, qui était venu pour nous aider à obtenir la victoire. Nous, les pauvres, mais bien intentionnés pécheurs. On présentait ainsi Jésus comme un exauceur, on peut dire exauceur de prières puissant, mais pas du tout exigeant. Le message était fait pour encourager une attitude de mendicité passive à l'égard de Jésus. La partie du Nouveau Testament qui nous encourage à vivre une vie sainte avait été soigneusement laissée de côté. On la qualifiait de négative et par conséquent, on ne la tolérait pas. Des milliers de gens cherchaient de l'aide sans pour autant vouloir tout laisser pour suivre le Seigneur. On interprétait la volonté de Dieu de la façon suivante. Viens, pauvre pécheur, et reçois. Christ était donc devenu un pourvoyeur utile, mais son droit incontestable à la seigneurie sur le croyant était totalement éliminé de façon tacite. Voyez-vous, une des choses qui reste comme un dangereux reliquat de ces jours de gala, c'est l'habitude réconfortante que nous avons prise de jeter tout le blâme sur le diable. Personne ne devait se sentir coupable de quoi que ce soit. C'est le diable qui était totalement responsable et par conséquent, pourquoi blâmer le pécheur pour les méfaits du diable? Et celui-ci était ainsi devenu le bouc émissaire universel, étant responsable du moindre acte de méchanceté commis depuis Adam jusqu'à nos jours. Le jeune homme qui l'autre jour, selon les nouvelles à la télévision et la radio, a violé cette jeune fille, cette joggeuse. Ensuite, il l'a étranglée et il l'a brûlée. Mais ce jeune homme, donc il n'était pas fautif. C'était le diable qui a fait ça. Mais le jeune homme, à mon avis, avait le choix entre ne pas le faire ou le faire. Voyez-vous, on en a déduit que nous, pauvres pécheurs aimables et charmants, ne sommes pas réellement mauvais, oh non. Disons que nous sommes plutôt détournés du droit chemin par les flatteries de ce méchant vieux gredin qui hante les lieux célestes. Nos péchés ne sont pas l'expression de notre volonté rebelle. Ils ne sont que des ecchymoses ornant les endroits où le diable nous a bourrés de coups. Dans ces conditions-là, il est normal que les pécheurs ne sentent aucune culpabilité, puisqu'ils se voient plutôt comme étant les victimes de la méchanceté du diable. Avec ce genre d'enseignement, on ne risque surtout pas de se condamner soi-même, mais par contre, on risque, et cela se fait, de beaucoup s'apitoyer, surtout sur soi-même, au sujet du sale coup que nous a fait à nous, nous, pauvres pécheurs innocents, ce vilain méchant diable. Il faut dire qu'aucun étudiant ne sous-estimera les sinistres agissements de Satan, mais le rendre responsable absolument de tous nos péchés, eh bien c'est de nous leurrer mortellement et systématiquement. Et l'illusion la plus dure à éliminer, c'est celle que l'on s'impose à soi-même. Il y a une autre doctrine qui entrave l'œuvre de Dieu et que l'on entend presque partout, c'est que les pécheurs ne sont pas perdus parce qu'ils ont commis des péchés, mais parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus. C'est là le problème. Les hommes ne sont donc pas damnés parce qu'ils ont tué. Non, non, non. Ils ne sont pas envoyés en enfer parce qu'ils ont violé et étranglé, ou parce qu'ils volent et cambriolent leur prochain, ou parce qu'ils blasphèment. Non, non, non. Ils sont précipités en enfer tout simplement parce qu'ils rejettent un sauveur. Voyez-vous ce genre de prédication, qui est une prédication à courte vue, retentit constamment à nos oreilles, et rares sont ceux qui la contestent. Un argument semblable serait targué de stupide, mais personne, semble-t-il, ne le remarque. Voyez-vous cet homme qui est atteint de cancer, il se meurt. Mais ce n'est pas le cancer qui est responsable de sa mort, pas du tout. Mais c'est le fait qu'il n'accepte pas le traitement. N'est-il pas évident que la seule raison pour laquelle cet homme a besoin d'un traitement, c'est que le cancer l'a déjà marqué pour mourir? La seule raison pour laquelle j'ai donc besoin d'un sauveur, en sa qualité de sauveur, c'est que je porte déjà la marque de l'enfer à cause de mes péchés que j'ai commis. Le fait de refuser de croire en Jésus est un symptôme d'une plus grande méchanceté dans ma vie que de péchés ou de péchés qui sont non confessés et de mauvaises voies qui sont jamais abandonnées. Donc la culpabilité réside tout simplement dans les actions du péché, et la preuve de cette culpabilité, elle se voit simplement dans le rejet de mon Sauveur Jésus. Si quelqu'un était tenté d'écarter mes dires et de n'y voir qu'une dispute de mots, qu'ils prennent le temps de réfléchir tout d'abord. La doctrine qui voudrait que le seul péché mortel soit le rejet de Jésus est définitivement une cause qui contribue à notre faiblesse présente et au manque de force morale. Elle n'est donc qu'un sophisme théologique habile que le chrétien moderne est arrivé à identifier à de l'orthodoxie. Et c'est pourquoi elle est très difficile à corriger. À cause de son apparence inoffensive, elle est l'une des croyances les plus préjudiciables parce qu'elle détruit notre sens des responsabilités en ce qui concerne notre conduite morale. Elle enlève donc au péché tout son horreur et elle fait du mal une simple question technique. Or là où le péché n'est pas traité du tout, eh bien croyez-moi, la puissance ne peut jamais affluer. Un autre obstacle doctrinal, c'est celui qui consiste à enseigner que les hommes sont tellement faibles de nature qu'ils sont incapables de respecter la loi de Dieu. On nous enfonce notre incapacité morale dans la tête à coups de sermons, jusqu'à ce que le découragement nous prenne et que désespérés, nous abandonnions la partie. Et par-dessus tout cela, on nous dit que nous devons accepter Jésus afin que nous puissions être sauvés de la malédiction de la loi. Quoi que puisse dire l'intellect, le cœur humain ne pourra jamais accepter l'idée que nous sommes tenus pour responsables d'avoir violé une loi qu'il nous est impossible de respecter. Dites-moi, est-ce qu'un père songerait à placer sur le dos de son petit garçon de 3 ans un sac de blé pesant 100 kilos pour ensuite le battre parce qu'il serait incapable de le porter? De deux choses l'une, ou bien les hommes peuvent plaire à Dieu, ou bien ils ne le peuvent pas. S'ils ne le peuvent pas, alors ils ne sont pas moralement responsables et n'ont donc rien à craindre. C'est merveilleux. Par contre, s'ils peuvent plaire à Dieu, mais ne veulent pas, alors ils sont coupables. Et leur destination finale, en tant que pécheurs coupables, sera, croyez-le ou pas, l'enfer. C'est sans aucun doute cette deuxième consolation, je dirais plutôt conclusion, pardonnez-moi. Alors je répète, c'est sans aucun doute cette deuxième conclusion qui est la réalité absolue. Si l'on permet à la Sainte Bible de parler pour elle-même, elle enseignera avec force la doctrine de la responsabilité personnelle de l'homme pour les péchés qu'il a commis. Les hommes pêchent, commettent des péchés, parce qu'ils le veulent, ils le veulent bien. Ce que Dieu a contre les hommes, c'est qu'ils ne veulent même pas faire la part de la volonté de Dieu qu'ils comprennent et qu'ils seraient capables de faire s'ils voulaient bien. voyez-vous, dire que nous sommes nés sans aucune volonté et sans aucune discipline, ce n'est pas vrai. Certains enseignants ou enseignants de la Sainte Bible se sont servis du témoignage de l'apôtre Paul au 7e chapitre de son épître aux Romains pour en sortir la doctrine de l'incapacité morale. Cependant, quelle que soit la façon d'interpréter le combat intérieur de l'apôtre Paul, le fait de croire qu'il a systématiquement été un violateur de la loi et un transgresseur des 10 commandements va à l'encontre de toute la vérité connue. Il a témoigné de façon particulière qu'il a vécu en ayant une conscience absolument pure devant Dieu, ce qui, aux yeux d'un juif, ne pouvait signifier qu'une seule chose, qu'il avait observé les exigences légales de la loi. Le cri de l'apôtre Paul dans son épître aux Romains ne s'élève pas pour recevoir de la puissance afin d'accomplir les simples clauses morales des 10 commandements, mais pour recevoir la sainteté intérieure, je répète, pour recevoir la sainteté intérieure que la loi ne pouvait pas communiquer. Il est donc temps que nous mettions de l'ordre dans les idées que nous avons au sujet de la loi. L'impuissance de la loi, elle est triple. Premièrement, elle ne pouvait pas effacer les péchés passés, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas justifier. Deuxièmement, elle ne pouvait pas donner la vie à des hommes morts, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas régénérer. Et troisièmement, elle ne pouvait pas rendre bon des cœurs qui sont mauvais, c'est-à-dire elle ne pouvait pas sanctifier. C'est donc de se tromper du tout au tout que d'enseigner que l'insuffisance de la loi est attribuable à l'incapacité morale dans laquelle se trouvait l'homme de satisfaire aux simples exigences de la loi en matière de comportement humain. S'il n'avait pas été possible d'obéir à la loi, on pourrait dire que Dieu a mis sur les épaules des hommes un fardeau moral absolument impossible à porter. Et puis, Dieu les a punis pour n'avoir pas été capable de faire l'impossible. Je veux croire tout ce que je trouve dans la Sainte Bible, mais je ne me sens aucunement obligé de croire à un enseignement qui est manifestement une conclusion erronée et qui constitue de plus un outrage à la raison humaine. Voyez-vous, la Sainte Bible, dans son entier, prend pour acquis la capacité d'Israël d'obéir à la loi. La condamnation, elle est venue parce que Israël, bien qu'ayant cette capacité, a refusé d'obéir. Les Israélites n'ont pas péché par charmante faiblesse, mais par une rébellion délibérée contre la volonté de Dieu. Le refus délibéré d'obéir à Dieu, c'est là toujours la nature intérieure du péché. Cependant, des hommes essayent perpétuellement de convaincre des pécheurs en leur disant qu'ils ont péché parce que c'était plus fort qu'eux. Donc, ils ne sont pas responsables, les pauvres. La mode qui consiste à excuser le péché ou à chercher une justification théologique au péché au lieu de le régler comme étant un affront à Dieu, cela a de terribles effets dans nos milieux chrétiens. Une recherche profonde du cœur, c'est le fait de se détourner résolument du péché, contribuera beaucoup à ramener la puissance dans l'Église de Jésus-Christ. Les gens ont besoin d'entendre à nouveau à ce sujet des sermons prononcés avec larmes avant qu'un réveil puisse se manifester. Simplement dire, malheureusement, écoutez, Madame la juge ou Monsieur le juge, que voulez-vous? On dit que je suis un kleptomane, alors je vole des sacs à main dans les trains, dans les bus, dans les trams. Je suis un kleptomane, je n'y peux rien. Un autre a dit, mais je suis innocent. Tout simplement, je mets le feu à des fermes, à des maisons, à des appartements, mais je suis absolument innocent. C'est un besoin de faire cela. Voyez-vous? Oui. La contradiction qui est observée dans les enseignements que nous avons examinés sont une cause de faiblesse. En règle générale, les chrétiens ne peuvent jouir d'une grande puissance à moins qu'ils ne commencent à penser de façon correcte. Simplement dire aux gendarmes, excusez-moi, j'ai reçu un téléphone sur mon portable et j'étais bien obligé de l'écouter parce que c'est peut-être quelque chose de très important. Et voilà que j'ai eu un accident terrible. Il y a une personne qui est morte. Mais je n'y peux rien. J'ai reçu un coup de téléphone sur mon portable. Oui, revenons à notre étude. Que les méthodistes aient ou non eu raison sur tous les points qu'ils défendaient, on ne le saura jamais tout à fait, mais leurs dirigeants avaient réfléchi tellement sérieusement et tellement clairement qu'il n'y avait pas de danger qu'ils fassent tourner en rond leurs fidèles. Aussi loin qu'ils pouvaient voir, il n'y avait pas de contradiction dans leur philosophie de la foi, ce qui constituait pour eux une véritable force. La même chose a été vraie pour les réveils de Finet. Dieu a utilisé Finet pour amener les gens à penser de façon correcte en matière de religion. toutes ces conclusions peuvent ne pas avoir été justes, mais il a supprimé les impasses doctrinales et il a amené les gens à se tourner vers Dieu. Il a mis devant ses auditeurs une véritable morale. C'est l'un ou c'est l'autre. De telle sorte qu'ils puissent toujours savoir où ils se trouvaient exactement. La confusion intérieure causée par des contradictions cachées n'existe pas dans ces prédications. Nous aurions donc besoin d'un autre Finet aujourd'hui. Chers amis, évidemment, j'ai un peu du mal de vous donner cette dernière étude parce que j'ai absolument pas pu dormir toute la nuit. Oh, pour ceux qui connaissent le pourquoi et le comment, eh bien, ils savent. Mais j'ai dit avant de commencer cette étude, cette dernière de la série, demain, Dieu voulant, je commencerai une autre série. Eh bien, j'ai demandé au Seigneur, interviens par le Saint-Esprit, parce que moi, je crois que je n'y arriverai pas. Chers amis, un observateur impartial qui lirait les Saintes Écritures sans être handicapé par des préjugés doctrinaux, il pourrait découvrir que Dieu désire faire progresser son œuvre parmi les hommes par de fréquentes effusions du Saint-Esprit sur ses enfants au fur et à mesure qu'ils en ont besoin et qu'ils sont prêts à les recevoir. Nous faisons cette déclaration en sachant pertinemment qu'elle sera violemment contestée par certains enseignants théologiques. Ce n'est pas biblique, diront-ils, de prier pour ou d'espérer une effusion du Saint-Esprit aujourd'hui. L'Esprit a été répandu une fois pour toutes le jour de la Pentecôte et donc n'a pas quitté l'Église depuis. Donc prier pour recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est ignorer le fait historique de la Pentecôte. Et voilà l'argument qu'ils utilisent pour dissuader les chrétiens d'espérer. Et de fait, l'ennemi a réussi ainsi à refroidir la ferveur de plus d'une église et de réduire au silence leurs prières. Il y a dans cette objection une logique trompeuse, voire il y a là un air d'orthodoxie supérieure, mais à cause de cela, eh bien cet argument est contraire à la sainte parole de Dieu et totalement en désaccord avec les œuvres de Dieu dans l'histoire de l'Église. La Sainte Bible n'appuie pas cette doctrine froide qui prétend qu'on est béni une fois pour toutes. Elle nous encourage plutôt à espérer une pluie de bénédictions et de fraîches ondées sur un sol aride. Il n'était pas possible que l'effusion de la Pentecôte puisse toucher des personnes qui n'étaient pas présentes ou des églises qui n'avaient pas encore vu le jour. Il est donc évident que les bénédictions spirituelles de la Pentecôte devaient se prolonger au-delà de la durée de vie des personnes qui ont été les premiers à les recevoir. L'Esprit Saint devait donc non seulement remplir ce premier groupe d'environ 120, mais d'autres aussi. Sinon, les bénédictions de cette expérience se seraient arrêtées à la mort du dernier membre de ce fameux groupe initial. Tout ceci semble assez raisonnable. Mais la sainte parole de Dieu nous offre une plus grande certitude. Quelque temps après la Pentecôte, un groupe de croyants se réunit dans l'intention de prier pour recevoir de la force et de la puissance afin de pouvoir répondre aux situations urgentes auxquelles ils faisaient face et afin de s'assurer le secours de Dieu. Quand ils ont prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Notez Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31. Certains de ces croyants étaient du nombre de ceux qui furent à la Pentecôte. Il est à peine concevable que Dieu ait pu agir de façon contraire à sa propre volonté en les remplissant de nouveau après la Pentecôte. Notez Actes chapitre 8, chapitre 9 et le chapitre 10. Et ces chapitres 8, 9 et 10 rapportent encore d'autres effusions. Elles se sont produites de plusieurs années après l'acte original. Donc, en peu de mots, l'enseignement du Nouveau Testament nous apprend que l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte constituait le début historique d'une époque qui allait être caractérisée par une effusion continuelle du Saint-Esprit. Par la bouche du prophète Joël, Dieu avait promis que dans ces jours-là, il répandrait son esprit sur toute chair. La phrase qui dit « dans ces jours-là », cette phrase se rapporte à une période commençant avec le premier avènement de Jésus et se poursuit à travers le second. C'est ce que croit C.I. Scofield, comme on peut le voir en prenant connaissance de ses notes sur Joël chapitre 2 et Actes chapitre 2. Ça, c'est dans la Bible Scofield. Les expériences rapportées au cours des années 1900 confirme que la promesse de Dieu au sujet de l'effusion d'une puissance d'en haut est destinée à l'Église tant que durera son combat terrestre. Alors que la chrétienté, dans son ensemble, s'est toujours contentée de credos et de formes, il y a toujours eu de plus petits groupes dans le corps de Christ qui ont fait la preuve des promesses de Dieu et qui ont goûté les fruits de la Pentecôte. Des mouvements puissants appelée réforme, dénuée sur les activités missionnaires, le déclenchement soudain d'un réveil enflammé au sein de communautés et de nations, tels ont donc été les signes ou le signe de la colonne de feu dans la nuit pour marquer la manifestation de Dieu. À une époque que l'on peut qualifier d'assez récente par rapport à l'histoire humaine, eh bien ces effusions spirituelles nous ont donné les Moraves, les méthodistes, l'armée du salut et une foule de prédicateurs et de missionnaires très puissants dont les noms sont inscrits dans le livre de la vie. À l'époque même où nous vivons, il y a partout des évidences que Dieu répand encore son esprit sur les hommes. Les œuvres puissantes qui s'accomplissent dans les pays scandinaves, en Indonésie et en Indochine, ne peuvent s'expliquer que comme étant de nouveaux chapitres qui ont été écrits dans le livre inachevé de Dieu. Je me rappelle simplement, quand j'étais un enfant, comme j'ai passé 90 ans, ça remonte quand même à assez longtemps. Il y avait en ce temps-là des trains à vapeur, il y avait des calèches tirées par des chevaux. Eh bien, figurez-vous, il y avait à Steffa, au bord du Zürichsee, où je suis né, il y avait là une femme qui s'appelait la lessiveuse pour les riches. Elle faisait la lessive au bord de la rivière pour des familles aisées, avec une planche. Et elle frottait le linge sur cette planche. C'était très, très pénible. C'était une femme toute simple. Elle s'appelait Dorothée Trudel. Elle n'avait eu aucune éducation. Moi, j'ai fait tout de même 4 ans d'école primaire, mais elle n'en avait pas du tout. C'est encore pire. Bon, je ne sais pas écrire parfaitement le français, ni l'allemand, ni l'anglais. Bref, eh bien, figurez-vous, un jour, cette femme, dans la prière, a été inondée du Saint-Esprit et elle a reçu un des dons. Entre parenthèses, vous savez que le don des langues, c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. C'est le plus petit de tous. Ces gens, et même Dorothée Trudel, n'a jamais parlé en langue. Mais il y a d'autres dons. Elle a reçu le don des miracles et de guérison. Des gens ont commencé à venir en calèche depuis le fin fond de l'Allemagne. Et en ce temps-là, il fallait des fois 2-3 jours ou plus pour arriver jusqu'à Steffa. Simplement pour qu'elle prie pour eux. Il y avait des grabataires, il y avait des gens vraiment très très malades. On y a même amené quelques chevaux qui s'étaient blessés en cours de route. Elle a prié aussi bien pour les 4 pattes que pour les 2. Et ils ont pratiquement tous été guéris, miraculeusement, par cette simple sœur en Christ, tout à fait simple, et où tous les éminents ont été tellement étonnés qu'ils ont d'abord cru que ce qu'elle avait reçu était du diable. Ça nous rappelle quand même quelque chose de biblique, ça, non? C'était du diable. Je savais pas, moi, que le diable guérit des malades. J'ai plutôt l'impression qu'il met des cancers virulents actuellement même à des petits enfants dus à la pollution exagérée et avec tous les ingrédients chimiques qu'on met dans les légumes, dans les fruits, partout. Bref, chers amis, tout cela est vraiment terrible. Mais une chose est certaine, Dieu agit aujourd'hui comme autrefois. Parfois, par des toutes simples personnes que nous aurions jamais pensées. Voyez-vous, si Dieu veut répandre son Saint-Esprit sur nous, pourquoi alors n'a-t-il pas plus de chrétiens, n'y a-t-il pas plus de chrétiens et pas plus d'églises qui reçoivent cette puissance comme l'a reçu l'église primitive? En réponse à ces questions, nous présentons l'analyse suivante qui a au moins le crédit d'être le fruit d'observations faites par soin et dans la prière. Un élément qui fait obstacle à la réception de la puissance, c'est la peur. C'est la peur largement répandue que l'on a de nos émotions. Voyez-vous, chaque fois qu'il est question de religion, on dit il faut éviter toute émotion. Je crois que quand une jeune fille tombe amoureuse, il me semble que ça sera difficile sans qu'elle ait des émotions. On me fait rire. C'est allé si loin que c'est devenu une phobie chez un bon nombre de gens sérieux, des hommes qui pourtant devraient être plus avisés, s'agenouillent en compagnie de quelqu'un qui cherche, ne cessant de le mettre en garde contre ses émotions, de la même manière qu'il le mettait en garde contre le diable en personne. Des docteurs de la Sainte Bible déclament contre les sentiments jusqu'à ce que nous ayons honte de reconnaître qu'il nous est arrivé d'entretenir quelque chose d'aussi anormal. Dans l'enseignement moderne, les sentiments et la foi sont opposés l'un à l'autre et on fait comprendre à celui qui reçoit l'enseignement que toute démonstration de sentiment est totalement déplacée, sinon elle est même charnelle et ça viendrait peut-être même du diable. Cet enseignement anti-émotion, quoique soutenu par de bonnes personnes, et quoique se tenant en compagnie assez orthodoxe, n'en est pas moins une déduction justifiée, d'accord, et il ne constitue pas une doctrine scripturaire et s'oppose violemment à la psychologie et au bon sens. Où, je vous le demande, où dans la Sainte Bible trouve-t-on que les sentiments et la foi ne font absolument pas bon ménage? Le fait est que la foi engendre des sentiments aussi sûrement que la vie engendre le mouvement. Nous pouvons avoir des sentiments sans la foi, c'est vrai. Mais nous ne pourrons jamais avoir la foi sans avoir aussi des sentiments. La Sainte Bible ignore absolument tout d'une foi froide et dépourvue d'émotions. La foi qu'on expérimente ou qui ont expérimenté les héros qui ont été mentionnés dans le livre des Hébreux, eh bien, cette foi-là a immanquablement produit des sentiments et elle a conduit à une action positive dans la direction de leur foi. Un sentiment d'enthousiasme a toujours jailli dans le cœur de ces hommes en réponse à une déclaration, en réponse à une promesse ou à un avertissement. Notez Noé. Noé a été saisi d'une crainte respectueuse. Abraham, il s'est réjoui et il a obéi. Le livre des Actes éclate quasiment de joie. Le meilleur résumé de tout cela, c'est peut-être l'apôtre Paul qui l'a fait quand il a écrit aux Romains. Il a dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre, il a dit ceci, lui, Jésus, qui vous aime sans l'avoir vu et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. La question ne se pose même pas que l'on est évidemment pas sauvé par des sentiments. Bien sûr, on n'est pas sauvé uniquement par des sentiments ou par des émotions. Un autre élément qui nous empêche de recevoir la puissance d'en haut, eh bien c'est notre peur du fanatisme. On dit en Suisse allemande Stündler, les momiers. Évidemment, la plupart d'entre vous ne connaissent pas certainement ce mot, les momiers. Ça s'était dit autrefois. Once upon a time. Une répulsion instinctive face aux excès de la chair et à la conduite insubordonnée et insensée de certaines personnes qui prétendent avoir atteint les sommets de la spiritualité, à fermer ainsi la porte à une vie de puissance, à beaucoup de vrais enfants de Dieu. Ils ont commis l'erreur de mettre tout l'enseignement concernant le Saint-Esprit dans la même catégorie et par conséquent, ils ne veulent et entendre parler là d'aucune façon. Cette attitude se comprend, bien sûr, je l'ai déjà mentionné, mais on devrait garder en mémoire les fameuses paroles de l'apôtre Paul. Car ce n'est pas un esprit de timidité, a-t-il dit, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Le Saint-Esprit donc c'est le remède, à mon avis, au fanatisme. Mais il n'en est jamais la cause. Maintenant, chers amis, c'est un fait bien établi dans tout le Nouveau Testament que les bénédictions découlent de la rédemption et doivent être reçues, évidemment, par la foi. Ça, c'est la base de la théologie de la rédemption et de toute dérogation à ce principe. Eh bien, c'est mortel pour quiconque vit une expérience chrétienne authentique. Je dois malheureusement abréger un peu mon étude, parce que autrement on n'y arrivera pas. Chers amis, parlons, les réveils, ils ont pu être accomplis principalement, je crois, grâce à l'unité de pensée qui régnait parmi un nombre de vrais croyants. Et le deuxième chapitre des Actes mentionne qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu quand l'Esprit est venu sur eux. Cette façon de voir peut déranger certaines personnes qui n'ont cessé d'avoir des doutes au sujet de la doctrine largement acceptée que l'unité de cœur parmi les chrétiens, c'est vraiment l'œuvre souveraine de Dieu et que nous ne pouvons y prendre aucune part, c'est ce qu'ils disent. Mais cette doctrine insipide de l'inaction nous enseigne que nous devrions étudier pour ne rien faire et espérer vaguement que d'une façon ou d'une autre, Dieu va nous rassembler dans un même accord. Si l'accomplissement de l'unité n'est que le seul travail de Dieu, pourquoi sommes-nous constamment exhortés à l'unité par Christ et, il dit, aussi par les apôtres? Rendez ma joie parfaite, est-il dit, ayant un même sentiment et ayant un même amour et ayant une même âme, même une même pensée. Notez Philippiens chapitre 2, verset 2. Vous efforçons, est-il dit ensuite, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens chapitre 4, verset 3. Il est dit ensuite, j'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Philippiens chapitre 4, verset 2. Ensuite, je vous exhorte, chers frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. J'admets que pour le pasteur qui combat, il est facile de trouver dans cet enseignement une source de découragement. Voyez-vous, si l'unité est d'une telle importance pour l'œuvre de cet esprit, alors j'ai perdu espoir pour mon Église. Ses membres, ils sont composés d'un mélange de protestantisme nuancé de douzaines d'opinions théologiques différentes. Ils sont surtout d'accord sur les principes fondamentaux. C'est heureusement vrai. Mais parfois ils diffèrent sur certains points que je n'ai pas le moindre espoir de pouvoir jamais les réconcilier. Comment pourront-ils effacer les différences provenant d'arrière-plan religieux variés? Comment pourront-ils jamais partager les mêmes idées sur tous les points? Si Dieu ne peut pas envoyer un renouveau, à moins que nous n'ayons accompli ce que je crois être l'impossible, alors notre cause est absolument sans espoir. C'est donc ce genre de réplique que nous recevons en réponse à notre exhortation à l'unité. Notez que l'âme troublée qui tient de tels propos et n'est pas un adversaire, mais elle est un homme, une femme, qui aime sincèrement Dieu et les hommes. Cet argument semble donc vouloir détruire tout ce qui a été dit en faveur de l'unité pour le renouveau, si ce n'était de deux faits dont il faut tenir compte. Premièrement, l'unité dont nous parlons n'est pas une unité théologique. Deuxièmement, pour que Dieu commence son œuvre, il n'est pas nécessaire d'avoir une unité qui touche à 100% tous les gens. Un couple IJ, un couple F et leur fils, eh bien Dieu répond même, et oui, à deux ou trois qui sont assemblés en son Saint-Nom. L'étendue et la puissance de son œuvre dépendra de la taille du noyau par rapport au nombre total des croyants de l'Église. Pour terminer cette importante étude, disons que nous devrions aussi être encouragés de savoir que Dieu ne s'attend pas à trouver la perfection absolue dans aucune de nos églises. Un petit groupe au sein de la plus grande collectivité peut être la clé de renouveau. Il suffit donc à ceux qui composent ce groupe d'être unis de cœur et d'avoir des buts communs, et Dieu commencera une œuvre en eux. Oui, une œuvre qui peut s'étendre et embraser un plus grand nombre de gens. Et cela au fur et à mesure qu'ils répondent aux conditions divines. Plus le nombre de gens qui seront unis de cœur et d'esprit sera grand dans une église, et bien plus le Saint-Esprit manifestera sa puissance dans son œuvre de salut. Mais il ne s'attend jamais à une participation de chaque membre. Je termine ici et je vous dis, Dieu vous aime et je vous aime de tout mon cœur. Soyez bénis. À demain pour une nouvelle série. Au revoir, mes très chers amis.